Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Je m'appelle Francky Valac et j'ai 26 ans. J'habite à Paris, j'étais comédienne, je le suis encore, et je suis devenue réalisatrice en sortant mon premier film qui s'appelle Trop d'amour. J'ai écrit ce film en 2 mois. Je me suis réveillée le jour des 94 ans de ma grand-mère avec une urgence de me dire que je voulais l'immortaliser et que j'avais ce rêve fou de la mettre en scène et de la faire exister autrement qu'à travers ce qu'elle était, qui était une rescapée de la Shoah. Elle avait eu l'habitude de communiquer beaucoup dessus. Et je voulais que pour la fin de sa vie, elle existe autrement. Et donc, j'ai commencé à écrire ce film chez moi. Après un moment, j'avais joué pendant longtemps une pièce de théâtre. Et donc, du coup, je me suis retrouvée sans projet. Et je me suis isolée à écrire. Et ensuite, j'ai fait venir Agnès Hurstel dans la boucle. Qui était une amie que je connaissais à l'époque, qui n'était pas encore une amie, qui était juste une comédienne et qui était aussi scénariste. Et on a coécrit ensemble. En fait, j'ai 2 grandes sœurs qui ont des enfants. Moi, je n'étais pas prête, en tout cas, il y a 2 ans, à avoir des enfants. Et donc, je me suis dit, la chance, mes nièces et mes neveux, ils connaissent ma grand-mère et moi, mes enfants, ils connaîtront peut-être pas ma grand-mère. Donc d'abord, il y a eu une espèce d'envie de l'immortaliser pour pouvoir montrer aux générations futures qui elle était. J'avais bizarrement moins envie de l'immortaliser justement par son témoignage, parce que ça, j'en avais des captations, ça existe, il y en a sur Internet. Enfin, j'avais moins peur que ça disparaisse, mais c'était sa manière de parler, sa manière de respirer. Alors, il y a des choses qui sont indescriptibles chez une personne qu'on aime à raconter. Et donc, j'avais besoin de la filmer. Et je remarque aussi que j'ai une obsession, je filme toujours tout. J'ai toujours peur que les souvenirs ils disparaissent. Donc, du coup, je me suis dit, il y avait un peu ouais, mon amour pour elle, mais plus sa manière d'être vraiment humainement. Mmh. Et chez tout le monde, de toute façon, c'est ce qui m'intéresse, même chez les comédiens que je filme. Donc, il y avait cette nécessité de capter ça. Mes 2 parents sont nés en France. Ma mère est née dans le Nord. Mon père est né à Paris, à Ménilmontant. Et les parents de mon père sont tous les deux née aussi à Ménilmontant, mais d'origine polonaise. Et du côté de ma mère, son père est né en France aussi, mais de parents polonais. Elle a été élevée par ses grands-parents qui lui parlaient yiddish. Vraiment, jusqu'à ses 5 ans, elle a grandi avec eux. Et sa mère est bretonne, française, d'une famille antisémite, donc qui a complètement renié leur fille quand elle a décidé d'épouser un juif qui était mon grand-père. C'était pas un sujet du tout pour moi, leur origine, enfin l'origine de mes grands-parents. C'est devenu un... En fait, ça baignait dans ma famille, parce que bien sûr, on racontait ou pas, mais je savais que, enfin voilà, je savais qu'ils avaient vécu des histoires que je ne connaissais pas et que j'avais pas vécues. Mais que ça me paraissait tellement loin. Tellement, pour moi, je sais pas, je pense que quand on est plus petit, on n'a pas la même notion de temps. J'avais vraiment l'impression que c'était dans une autre décennie, que presque aussi loin que si on parlerait de Napoléon. Enfin, vraiment, c'était hyper lointain. Et c'est très récemment, mais même là, je dirais, ça doit être dans les deux dernières années, où j'ai compris qu'en fait, finalement, ils avaient immigré. Enfin, tout ce cheminement-là qui, pour moi, concernait d'autres familles et pas du tout la mienne. Et j'ai l'impression que ça a sauté une génération, en fait. Ça n'a jamais été une question pour mes parents. Mes parents, finalement, ils se sont construits eux-mêmes, mes grands-parents aussi. Enfin, ils viennent tous de rien. Et ils se sont construits tout seuls. Mais finalement, moi, quand je suis arrivée dans un milieu plutôt bourgeois. Donc, j'avais pas du tout ces notions-là. Comme, je dis pas du tout qu'ils ont voulu effacer ça et cacher ça. Mais c'est pas quelque chose qu'ils ont voulu me transmettre. Alors que moi, là, en grandissant, je réalise que c'est une richesse et j'ai envie de retourner à ça. Et à cette histoire-là et à cet héritage-là qui m'intéresse bien plus que la prison dorée dans laquelle je suis née. Mon besoin de comprendre, il est venu de manière inconsciente. C'est comme si, d'un coup, il y a eu un tourbillon qui s'est accéléré, enfin, qui est venu. Ma grand-mère avait 94 ans. Je me suis dit, je vais faire un film où je vais immortaliser ma grand-mère. Mais finalement, c'était ça ma note d'intention. Il n'y avait pas plus que ça. Puis, j'ai commencé à écrire sans même avoir le temps de me poser des questions, sans même avoir le temps de me dire comment ce film va exister. Je me disais, au pire, j'aurai des images. Et puis, j'ai commencé à filmer. Et puis, derrière ça, je me suis dit, maintenant, en fait, il y a aussi la famille qui a un lourd sujet. Mais en fait, il y a aussi qui je suis. Mais en fait, ça devient un film finalement qui parle de moi, alors que je parlais de ma grand-mère au début. Et tout ça s'est fait de manière très, très inconsciente. Puis ensuite, je me suis retrouvée à le tourner. Et je n'avais jamais réalisé. En fait, et voilà. Et tout s'est enchaîné. Et c'est après. En plus, c'est arrivé le confinement, où il y a eu une digestion, où j'ai re-regardé le film et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai voulu raconter? Qui je suis? J'ai eu une sensation hyper désagréable de la question et que je me pose encore aujourd'hui, qui je suis? Est-ce que, pour qui j'ai fait ça? Est-ce que je l'ai fait pour moi? Est-ce que c'est égocentrique? Est-ce que c'est pour elle? Est-ce que je dis ne pas vouloir, je veux plus parler de la déportation, en même temps, j'en fais un sujet, en même temps, c'est une obsession? En même temps, je ne veux pas parler de religion parce que pour moi, ce n'est pas lié à la religion, mais j'ai une phobie de l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, c'est lié aussi à une religion. Il y a une espèce de... je ne sais pas trop comment... Enfin, vraiment, je crois vraiment à l'inconscient. Mais j'ai l'impression que je ne cherche pas à y répondre dans mes films. Et que ce qui m'intéresse, c'est de raconter des personnages. Bon, là, en l'occurrence, c'était le personnage de Francky. Mais dans d'autres films, ce serait de raconter des personnages qui cherchent. Des humains qui se posent des questions et qui creusent et qui n'ont pas forcément la réponse. Et finalement, en tant que spectatrice, regarder un film où il y a un début, un milieu, une fin et où on me donne des informations, on me plaque des réponses, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis un peu en contradiction finalement avec ma culture parce que j'ai cette envie de la raconter et puis ça m'habite au quotidien. Je veux dire, je suis hyper attachée ou à l'histoire, ou au rituel que ça comporte, etc. Et en même temps, j'ai une espèce de déni total. Je déteste, par exemple, tout ce qui est communautaire. Pas que ma communauté à moi, je veux dire, en général, j'aime pas l'esprit de se rassembler entre personnes qui se ressemblent. Donc, il y a quelque chose que je renie vachement avec ça. J'ai toujours cette fierté, finalement, quand je regarde que ce soit... ou les juifs en général, ou des juifs ashkénazes, de me dire, mais moi, je ne suis pas du tout comme eux. J'ai aucun lien avec eux. Et en même temps, j'ai eu l'expérience de vivre 3 ans à l'étranger, et j'étais en Angleterre, et ça m'a profondément manqué que ce soit les rituels ou cette culture-là, parce que je ne rencontrais pas finalement là-bas de personnes de ma culture. Et là, par contre, j'avais une espèce de... je placardais partout le fait que j'avais ces origines-là. Donc, dès lors que je me suis ressentie déracinée, j'ai eu besoin de retourner à ça. Et en même temps, quand je suis à Paris et que je baigne dans mon quotidien, je n'ai surtout pas envie ni d'être assimilée à ça. Vraiment, il y a un truc qui me fait très peur dans... Je pense que parce que ma grand-mère, en tout cas, je pense à elle, mais il y a aussi mon grand-père, bien sûr. Mais elle, en l'occurrence, elle m'a tellement raconté que j'arrête pas d'imaginer la scène où elle s'est retrouvée sur le quai de ce train... à dire au revoir à son père pour toujours. Du coup, j'ai un peu une phobie de l'au revoir, une phobie de partir loin. Non pas en vacances, ça je voyage beaucoup, mais je veux dire de me reconstruire ailleurs, au contraire, c'est très compliqué pour moi. Alors que je critique toute la journée Paris et que je me dis que c'est pas du tout sain et que ça ne me réussit pas. Mais même quand je suis partie faire mes études, ça a été 3 ans de... C'est noir l'image que j'ai. de Londres. C'était pas pour moi du tout. Après, j'ai compris aussi que l'énergie de la ville ne m'allait pas. Mais je veux dire, ça a été, et en même temps, c'est là où j'ai l'impression que je me pose encore beaucoup de questions. C'est que ça a été noir et en même temps, heureusement que je suis partie. J'avais 17 ans. Heureusement que j'ai coupé le cordon. Heureusement que j'ai quitté le foyer familial. Heureusement que je suis allée voir autre chose. Heureusement que je me suis ouverte. Mais, j'ai tendance à quand même avoir envie de rester quand même dans mon cocon.
Est-ce que parfois tu te dis qu'il faut que tu te prépares un jour à tout quitter ?
Ah oui, complètement. Complètement, je me dis par contre, je suis enfin, mais parce qu'en fait, j'ai été aussi éduquée comme ça, donc ma grand-mère a bien sûr elle nous raconte qu'elle toujours elle a quand la guerre a été déclarée, elle disait à son père, il faut qu'on parte et lui ne voulait pas y croire. Donc elle arrête pas de refaire l'histoire en disant si on était parti, tout ça ne serait jamais arrivé. J'ai forcément, j'arrête pas de me dire, et moi, quelle personne j'aurais été pendant la guerre? Est-ce que je me serais cachée? Est-ce que j'aurais été à me faire arrêter, à suivre? Enfin, tu vois, j'arrive pas du tout. Elle me raconte des scènes où elle avait pas peur. Moi, je suis tellement trouillarde dans la vie. Je me dis, mais j'aurais pas pu affronter tout ça. Donc, quand je me refais l'histoire, forcément, je la décale à aujourd'hui et à mon père qui, lui, à n'importe quel événement. Donc d'abord, il y a eu Marine Le Pen qui était à deux doigts d'être élue. Puis ensuite, il y a eu une montée d'antisémitisme. Donc à chaque fois, il me dit, on va partir. Pendant très longtemps, je l'ai cru. Donc je me disais, ouais, on va partir, on est prêt. J'essaie d'imaginer où est-ce que je vais aller. Est-ce que je vais aller aux États-Unis? Enfin, et en même temps, les États-Unis, aujourd'hui, j'ai plus envie d'y aller. Enfin, et en même temps, récemment, plus il me disait ça, plus j'étais devenu le père de ma grand-mère, quoi. Je me disais, mais t'es malade, tu fabules. Ben non, on va rester, au contraire, on va faire changer les choses. Je fais aussi des films pour ça, avec une espèce, je sais pas si c'est utopiste ou naïve, je sais pas, mais de me dire non, ça va pas, on va partir, est-ce qu'on va partir?
Ouais.
Et aujourd'hui, je me ressens plus du tout ça, par contre. J'ai plus du tout, enfin non, je peux pas, je suis en sécurité quand je vois ce qui se passe ailleurs, tout va très bien en France. En fait, il y a aussi, toujours dans cette même ambivalence, il y a une. J'ai aussi une énorme peur du voyage qui ne sert qu'à fuir. Et quand j'ai eu la seule expérience dans ma vie que j'ai eue de voyager seule, c'était le moment où j'étais en train de fuir et de chercher une espèce de... une urgence de vie ailleurs par le voyage. Et finalement, je me posais pas les bonnes questions et j'étais vraiment pas au bon endroit. Donc c'est pour ça que que même l'idée de tout reconstruire ailleurs, les gens qui fuient et qui vont aller à l'autre bout, tout reconstruire, ça me fait peur parce que finalement, je me dis, ils fuient des choses et dans 4 ans, ils vont se retrouver face au même problème ailleurs. Donc, j'ai tendance à, au contraire, vouloir rester, me mettre le nez dans la merde et creuser au lieu de partir. Et d'ailleurs, quand je voyage, c'est souvent des moments où j'en peux plus, où j'ai besoin de respirer, d'équilibre. Mais donc, finalement, c'est quand je cherche à cacher ou à faire des pansements avec autre chose. Quand tu vas en promo, on te dit souvent « qu'est-ce que t'en ressors ?» ou « qu'est-ce que raconte ce film ?» Il n'y en a pas du tout la même lecture. C'est marrant, mon père s'obstine et ma grand-mère aussi s'obstine à dire « bah finalement, trop d'amour, c'est... on a beau se massacrer, on a beau se hurler dessus, bah y a encore de l'amour et on est une famille, on s'aime, on est liés. » Moi, pour moi, c'est pas du tout ça la conclusion. La conclusion, c'est que trop d'amour, ça te pourrit et qu'il faut s'éloigner aussi de ça.
Ah, c'est intéressant.
Et eux, ils n'ont pas du tout cette lecture-là. Et en même temps, je ne suis pas là pour leur plaquer. Tant mieux s'ils en déduisent ça. Mais du coup, c'est pour te dire à quel point ils sont loin.
Ouais.
Encore aujourd'hui, d'imaginer que j'ai cherché à remuer ou à changer les choses ou à prendre mon envol ou à me couper d'eux. Ils ne voient pas du tout le côté douloureux. C'est facile à dire quand tu as eu trop d'amour. De dire, ah bah, il faut s'émanciper. À l'inverse, ma grand-mère, elle a 17 ans, elle n'avait plus de parents. Et mon père, je pense qu'il a eu une mère qui était très compliquée. Qui n'est pas du tout la même grand-mère. Et qui, donc, du coup, il a manqué terriblement d'amour. Il se sent pas aimé. Et c'est ce qu'il raconte aussi dans le film quand il dit à son père, sur son lit de mort, je t'aime, et qu'il lui répond, je le savais, et qu'il lui dit pas moi aussi, alors qu'il attend qu'une chose, c'est qu'on lui dise ainsi. Donc, je comprends que lui, qu'est-ce qu'il fait quand il se retrouve avec une famille? C'est qu'il veut donner tout l'amour qu'il a pas eu. Moi, j'en ai eu tellement. J'ai eu aussi, j'ai eu l'amour, mais frustré qu'ils n'ont pas eu. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de dire ça. Je me vois là ce que je te raconte à toi, j'irais pas dire à un orphelin, lui dire il y a trop d'amour, c'est compliqué. Heureusement que t'es seule, jamais de la vie. Donc il y a aussi, je pense, ça dépend d'où tu parles. En fait, un jour j'ai vu une astrologue qui m'a fait de l'hypnose et elle m'expliquait je sais plus, je vais très mal le rapporter, mais t'as, je crois, 10 souffrances. La vie, tout le monde en a au moins 2 ou 3, je sais plus. Donc t'as la peur de l'abandon, t'as la peur de manquer, il y en a vraiment plein. Et dedans, elle m'a cité ce « et t'as le trop d'amour ». Et je me disais, ça consiste en quoi, ce trop d'amour? Et elle m'expliquait, bah, c'est ce côté, en fait, aussi de... t'as tellement d'amour qu'aussi... Il y a même une question de légitimité. Elle m'expliquait même cette notion-là de... Quand t'es petit enfant, une grand-mère qui a tellement souffert et qui a tellement vécu le pire, t'as une espèce de non-légitimité que tu portes en toi, où en fait rien n'est grave vu qu'ils ont vécu pire. Donc nous, tout va bien, donc nous, on a trop de chance, donc on a eu tellement d'amour, donc en fait, nous, tout va très bien, on n'a pas de souffrance. Et en fait, cette chose-là est en soi une souffrance. Et quand elle me l'a dit, mais je me vois vraiment, il y a eu un espèce d'apaisement de me dire, ok, donc j'ai le droit, en fait, et je suis pas si folle, et c'est pas être gâtée pourrie, et c'est pas ne pas être légitime que de dire ça, et en fait, c'est un vrai sujet. Et pour moi, c'est un peu juste qu'elle m'a raconté ça une fois que j'avais tourné le film un an trop tard. Mais quand je suis sortie, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux raconter à mon film, plus que, bon, bah, en fait, j'aime trop ma famille.
Et les photos défilent sur le coin de la table, je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.